L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Alors aujourd'hui, nous parlons des chemins de l'égalité, une série d'événements qui prolonge la journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes. Et ces événements s'étalent sur deux semaines, du 12 mars au 25 mars. Et pour en parler, je suis avec Angelina Etiamble, chargée de mission égalité femmes-hommes à l'université. Bonjour.
Bonjour.
Alors on fera une rétrospective des événements passés et on annoncera la suite du programme des chemins de l'égalité. Puis nous serons avec Marion Salle, des cinéastes, et Maxime, notre chroniqueur cinéma, pour faire un récap des résultats des Césars et des Oscars. Ils nous rejoindront tout à l'heure. Alors, souvenez-vous, on avait fait une émission avec eux pour faire nos pronostics sur les Césars et les Oscars, et on va voir s'ils se sont vérifiés. Mais pour l'instant, c'est parti pour notre invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Angelina Etiamble, vous êtes chargée de mission égalité femmes-hommes à l'université. Vous êtes donc au cœur de l'organisation des chemins de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste déjà la mission égalité femmes-hommes ?
Oui, alors en fait, désormais, elle s'intitule plutôt chargée de mission égalité femmes-hommes et de genre. On a ajouté, voilà, pour être beaucoup plus inclusif.
Depuis quand ?
Ça fait quasiment au moins depuis la rentrée.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc, cette mission, elle est à destination et des personnels et de la communauté étudiante. Dans les deux cas, il s'agit de travailler sur prévenir les violences sexistes, sexuelles, lutter contre les stéréotypes de genre de différentes façons, qu'il peut s'agir dans la formation, travailler à la mixité des filières et puis du côté des professionnels aussi, être attentive à tout ce qui va être recrutement, promotion, suivi de carrière. Enfin, c'est une mission qui est assez vaste. D'accord. Dans sa définition.
Alors, cet événement dont vous venez nous parler, les chemins de l'égalité, prolonge la journée du 8 mars, la journée des femmes. Pourquoi avoir organisé ces différents temps forts sur deux semaines ?
Alors, c'est vrai que de toute façon, le 8 mars là, tombait en période de congé, donc c'était difficile de s'organiser autour du 8 mars. Et puis, cela fait quelques temps déjà que je me dis, avec d'autres, qu'il est plus intéressant de ponctuer comme ça tout un... deux semaines, voire parfois ça peut aller jusqu'à trois semaines. Introduire différents événements pour permettre à plus de monde d'y participer. Et puis voilà, c'est pas une date, c'est pas une seule date, mais il y a plein d'événements qui, d'une manière ou d'une autre, résonnent de la question des inégalités et des droits des femmes.
Et alors, quels sont les différents acteurs organisateurs des chemins de l'égalité ?
Alors, ces chemins de l'égalité, c'est vrai que je ne suis pas toute seule, donc je coordonne éventuellement, je valorise, voire je propose, mais je ne suis pas la seule cheville ouvrière de tout cela. Donc, cette année, alors c'est différent d'une année à l'autre, cette année, l'association AFGEM, qui est l'association de fédérative jeune des étudiants du Maine, jeunes et étudiants du Maine, AFGEM, avait souhaité mettre en place un temps fort autour de la précarité menstruelle, de la distribution de serviettes hygiéniques lavables pour les étudiantes. Et autour de cela, on a travaillé sur cette première proposition avec notamment mes collègues du centre de santé. Et puis également des membres du collectif Tous Expliquent 72, puisque nous sommes aussi partenaires, l'université est aussi partenaire de ce collectif, pour réfléchir aussi à cette première journée avec un temps qui a eu lieu à Laval, puisque nous sommes sur deux campus, et Le Mans. Donc cette journée-là, c'était, donc Laval, c'était le 12, le 13, c'était au Mans, avec aussi donc la présence tant du centre de santé, comme je le disais, que d'associations telles le Planning Familial, Homogène, CIDFF. Donc derrière la question de cette précarité, c'est aussi revenir sur les tabous du corps, ouais. Et puis les inégalités économiques aussi, hein, dont sont victimes les jeunes femmes, parce que ce sont des choses qui, malgré tout, coûtent encore très cher.
Alors, les tabous du corps, est-ce que vous faites référence, par exemple, effectivement, aux distributions de protection périodique pour lutter contre la précarité menstruelle? C'est un tabou du corps, la précarité menstruelle?
Oui, bien sûr. La question du sang, des règles, et puis tout ce qui peut être associé, ça reste un tabou. C'est encore quelque chose qui est quasiment caché. Donc même d'installer les boîtes de distribution, ça, quel endroit? Est-ce qu'on est sur des toilettes mixtes, non mixtes? Oui, ça reste encore un tabou. Tout ce qui est qui vient du corps et notamment du corps des femmes, voilà. Je vous rappelle, ça fait pas très longtemps que dans les serviettes périodiques, on mettait un liquide bleu au lieu de mettre du rouge, les couleurs du sang.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le collectif Tout s'explique 72? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi il consiste, ce collectif, et est-ce que vous travaillez souvent avec eux?
Alors, moi, ça fait depuis que je suis chargée de mission, donc ça remonte à déjà fin 2019, que je travaille avec le collectif qui rassemble tout un ensemble d'associations, dont celles que j'ai nommées, mais aussi d'autres, Solidarité Femmes, etc., qui rassemble aussi, par exemple, la mission locale, Service Jeunesse Ville du Mans, tout un ensemble de partenaires, y compris hôpital, pour travailler, réfléchir ensemble à des actions un peu transversales et communes, mutualisées, puisque beaucoup travaillent sur la santé sexuelle, sur droits des femmes, droits des personnes LGBTQI+. Donc c'est l'idée, sur un territoire qui reste assez petit, de travailler dans le même sens, de mutualiser. Donc par exemple, les chemins de l'égalité, là, cette année, l'édition, la programmation du collectif reprenait aussi cette appellation.
D'accord. Alors, je note simplement que le collectif a organisé plusieurs événements dans la quinzaine des chemins de l'égalité. Et aujourd'hui même, par exemple, mardi 19 mars, est représenté la pièce « Quand je serai un homme » à 20h30 à l'espace culturel Henri Salvador à Coulennes.
Tout à fait.
Alors, pour en revenir aux événements du coup des chemins de l'égalité, ils se sont ouverts avec le village des égalités. Vous en avez parlé, je crois. Donc, c'était ce qui était le 12 mars à Laval et le 13 mars sur le campus du Mans. En quoi ça consiste, en fait, le village des égalités?
Là, en fait, on était situé dans un lieu où, justement, il y avait eu toute une action à destination des étudiantes et des étudiants. En fait, ce qui était sympa, c'est que des étudiants sont venus aussi pour être informés sur... Il y avait donc distribution également de préservatifs et être informés sur des préventions, mais aussi être informés en tant qu'homme ce qu'est la précarité menstruelle. Souvent, les hommes ne se préoccupent pas toujours suffisamment et de ces protections périodiques ou de la question des règles, mais aussi, par exemple, de la contraception. Souvent, c'est aussi quelque chose qui est à la charge des femmes. Donc, c'est informer de cela. Et puis, c'est aussi... moi, j'avais un petit stand où je profite de l'occasion pour revenir sur qu'est-ce qu'on appelle le sexisme, comment ça peut conduire à des conduites... harcelante, violente, de l'agression. Donc, essayer aussi de qualifier avec les personnes. On a un petit quiz, justement, aussi sur des débats que l'on peut avoir, que l'on peut entendre encore sur est-ce que du fait qu'on parle du harcèlement, du fait qu'on parle de l'outrage sexiste, etc., est-ce que du coup, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, des choses que l'on entend fréquemment. Donc, c'est aussi débattre de la drague, de la séduction et de voir que la frontière, elle est franchie dès que l'on ne respecte pas le consentement.
C'était le sujet de la soirée théâtre-débat avec la pièce « Dans l'ombre des amphis » qui a clôturé le village des inégalités.
Oui, alors, donc ça, c'était vraiment organisé par l'AFGEM. C'est... du théâtre où il est bien question, là encore, de sexisme, de violence, et notamment dans l'enseignement supérieur.
Donc, dans l'ombre des amphis, qui était donné par la compagnie Entrée de jeu. Le 13 mars avait lieu une rencontre avec le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Quelle est la mission de ce centre?
Alors, le centre d'information qui a plusieurs, ils en parleraient sans doute mieux que moi, mais c'est d'abord une association qui informe des droits. Hein, donc, il y a des juristes, il y a aussi des conseillères et conseillers, alors essentiellement là, des conseillères qui travaillent sur l'insertion professionnelle. Donc, le centre d'information, c'est un lieu, donc on prend rendez-vous généralement pour être informé de ses droits, si on est dans une procédure par exemple de divorce, mais ça peut être aussi parce qu'on a une problématique de harcèlement ou de discrimination au travail. Voilà, donc centre d'information des droits et des familles, et c'est vrai que c'est une association aussi essentielle, qui a d'ailleurs une convention avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour aussi mettre en place des campagnes dans nos établissements à destination des étudiants pour travailler aussi sur la question du harcèlement et du consentement.
D'accord. Alors, puis le 14 mars avait lieu un jeu, plus précisément un serious game collaboratif sous forme de jeu de rôle. Ça s'appelait Industrie L, donc Industrie apostrophe L au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce jeu ?
Oui, alors ce sont mes collègues du service du universitaire d'insertion et d'orientation professionnelle qui travaillent beaucoup sur des projets liés à l'orientation et à la mixité. Et Industriel, c'est justement un dispositif qui existe dans plusieurs régions et qui est à destination de lycéennes, donc de seconde, qui, à l'occasion de ce temps fort, vont pouvoir découvrir les métiers de l'industrie en rencontrant des expertes. Hein. Donc là, il y avait par exemple des professionnels de chez Renault, de Seb, ça allait de la mécanique à l'aérospatiale. Enfin voilà, c'est des choses assez variées. Et c'est l'occasion alors de leur faire connaître aussi, découvrir des formations qui sont souvent très... masculine, hein, dans les, par exemple, le génie mécanique, des choses comme ça, de leur faire connaître les conditions d'études, les ateliers, tout ça. Et puis, elles sont en quelque sorte mises au défi de, par petits groupes, de réaliser un prototype industriel sur des contraintes qui sont, que ce soit durables, pérennes, etc. Et avec du matériel de récupération.
Ok. Donc, alors, un prototype industriel, c'est-à-dire c'est un objet technique fonctionnel, quoi ?
En fait, elles font un prototype. Avec, ouais. Alors, c'est pour ça, c'est un jeu de rôle. Elles vont avoir plusieurs... il y aura plusieurs rôles. Ça pourra être la conception, la fabrication, la commercialisation, tout un ensemble de choses. Donc c'est c'est assez impressionnant leur réalisation. Par exemple, moi j'étais jury d'un groupe avec une professionnelle qui a fait le. Alors il y a le génie climatique, le génie, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont pensées. Et ce groupe a réalisé en fait un dispositif pour faire un recyclage de l'eau.
D'accord.
Sans apport d'eau nouveau. Donc elles ont bâti un truc très 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 fonctionnel en défendant sa faisabilité, et c'est vrai qu'on y croit. Hein. voilà, donc il y avait plein de projets, il y avait un guidon qui pensait pour éviter les soubresauts, etc. Donc elles construisent une maquette à partir de matériaux de récupération, ça peut être des cartons, enfin de tout. Et elles doivent défendre leur projet.
Et ça se déroulait sur combien de temps ?
Ah ben ça, c'est très très rapide. Elles sont mises un peu au travail, entre guillemets, en fin de matinée.
D'accord.
Pour leur expliquer le jeu, qu'elles prennent connaissance du déroulement. Et puis ensuite, elles ont à peu près 2 heures pour tout faire.
Ah oui, c'est extrêmement court.
Impressionnant, hein. Oui.
Ah oui, effectivement.
Donc, donc je participe avec plaisir à cette action, hein, qui est organisée par les collègues et avec des lycéennes venant de plusieurs lycées de la Sarthe, en fait. Et avec l'idée que ça va ouvrir pour elles le champ des possibles, puisque ce sont des secteurs qui recrutent avec des salaires souvent attractifs. Enfin, voilà.
Alors, on passe à la deuxième semaine des chemins de l'égalité. C'est hier, lundi 18 mars, que vous avez participé à une table ronde sur les femmes en exil. Par qui était organisée cette conférence ?
Donc là, c'était organisé à la fois par Aimée Hugo, qui est une doctorante en droit, et puis des étudiantes, c'était essentiellement des étudiantes du Master 2, Droit des étrangers, réfugiés et apatrides.
Donc c'était croisé avec la semaine dédiée aux droits des étrangers.
En fait, voilà, c'est-à-dire que c'est aussi mon rôle de valoriser des actions qui résonnent de cette question des droits des femmes, puisque là, pour le coup, c'était des femmes en exil et la question de leurs droits, elle est essentielle aussi au regard du droit d'asile.
Et pourquoi est-ce que c'est important de traiter cette question des femmes en exil ?
Parce que justement, ça vient interroger l'universalité, en quelque sorte, de ces droits.
D'accord.
Qui ne sont pas effectifs dans tous les pays. Mmh. On avait le témoignage d'une femme qui était afghane, qui était procureure dans son pays et qui a fui à l'Afghanistan parce que justement, avec l'arrivée des talibans, elle ne pouvait plus exercer son métier. Elle devait rester à la maison. Et donc, elle a pris le chemin de l'exil, les chemins de l'égalité, c'est aussi ça, croiser les chemins de l'exil parfois, pour fuir un lieu de vie dans lequel elle ne pouvait plus s'épanouir en tant que femme, plus faire valoir ses droits. Donc voilà, c'est aussi interroger à la fois dans les pays d'origine quels sont les droits des femmes, comment elles sont victimes aussi de violences lors de leur voyage migratoire, et puis aussi comment en France elles sont plus ou moins bien accueillies. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'elles sont des femmes, tout de suite on les accueille à bras ouverts. Non, c'est pas vrai du tout.
Vous pensez que, y compris en France, il y a une spécificité des droits des femmes en exil par rapport aux droits des hommes en exil, par exemple? Il y a une différence de traitement, vous pensez?
Oui, il peut y avoir une différence de traitement dans la mesure où par exemple, il était évoqué hier par rapport au droit d'asile, la question d'avoir un titre de séjour ou d'être reconnu réfugié du fait d'avoir été victime de la traite des êtres humains, soit pour la prostitution, le travail forcé, la mendicité, enfin voilà. Et là, on repère que ce sont plutôt des femmes, ou bien encore, risque de mariage forcé, d'excision, de mutilation. Et puis, de manière plus large, des contextes sociétaux qui ne permettent pas aux femmes d'exister en tant que femmes avec tous les droits. Donc voilà, il peut y avoir un traitement particulier. Pour autant, elles vont aussi être mises en difficulté par des politiques migratoires et des politiques d'accueil aussi qui précarisent ces femmes.
Et alors, quel était l'intitulé de votre intervention pendant cette table ronde ?
Alors en fait, d'abord je voulais souligner la qualité de l'organisation de cette table ronde par les étudiantes, puis parce qu'elles avaient en amont travaillé auprès des différentes personnes intervenant sur des questions précises. Et donc c'est vrai que ça permet d'anticiper, parce qu'une table ronde ça passe très vite. Donc moi par exemple, il n'y avait pas un titre général, on répondait plutôt à des questions. Moi j'avais plutôt, on constate, il semble que les femmes aujourd'hui dans la migration soient beaucoup plus autonomes, alors qu'auparavant elles suivaient entre guillemets les hommes. Et en même temps elles sont là depuis longtemps mais on ne les voyait pas, donc la question de l'invisibilité. On s'est interrogé aussi sur, par exemple, des questions qui m'étaient posées, à savoir si dans le droit d'asile, les femmes sont reconnues en tant que telles, comme un groupe social. Est-ce que ça a du sens au niveau sociologique? Donc voilà, sur des choses assez pointues en fait.
Ça marche. Eh bien, c'est tout en tout cas pour les événements qui sont passés. Donc merci pour cette rétrospective des chemins de l'égalité. Mais les chemins de l'égalité, ça continue, notamment avec la représentation de la pièce Des femmes respectables le 21 mars à Ève. On remarque en fait qu'il y a une vraie volonté de diversifier la nature de ces différents temps forts des chemins de l'égalité, entre conférences, pièces de théâtre, rencontres. Le but par là, est-ce que c'est aussi de modifier nos rapports aux problématiques que rencontrent les femmes par ces différentes approches intellectuelles, sensibles, esthétiques?
Oui, pour moi, c'est essentiel vraiment de croiser les approches, de diversifier les regards, d'avoir des médias différents, des supports différents. parce que tout le monde n'est pas atteint de la même façon. Il y a une convergence, bien entendu, mais de traiter le sujet de manière différente, je trouve que ça enrichit. Et pour certains, on va être plus interpellé sur une forme artistique ou sur un témoignage. Il y a différentes manières, en fait, de poser le sujet et de voir qu'il est encore très actuel.
Alors, est-ce que vous sauriez nous dire simplement deux mots sur des femmes respectables ?
Alors, c'est ma collègue Julie Bordas, responsable de EF, qui l'a programmé. Donc, c'est plutôt de la danse, en fait, où sont interrogées aussi, là encore, les injonctions à la féminité. Qu'est-ce que la féminité ? Est-ce que les normes de féminité ? Et donc là, évidemment, ce qui est intéressant toujours, c'est comment on vient interroger ça à travers le corps. Voilà.
Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'émission de l'Amphi. On avait interviewé Alexandre Blondel, le chorégraphe de la pièce. Alors enfin, Les chemins de l'égalité s'achèvent sur la projection du film documentaire Étudiante en terre aminée. Pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots ?
Oui, j'espère d'abord qu'il y aura beaucoup de monde à venir à cette projection qui a lieu à 17h30 à l'Amphi Mersenne. En présence de la réalisatrice Charlotte Espel. C'est un documentaire, un film très récent, puisqu'il a été produit là, par France, avec France Télévisions il y a quelques mois. Et puis, c'est un documentaire qui réinterroge justement les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, et notamment sur des parcours de doctorantes. Puisque on sait aussi que c'est souvent là que les abus sont très présents. Donc c'est une nouvelle fois libérer la parole, voir quels sont les mécanismes, quelles sont les situations qui ont généré ces violences, quelles sont les réponses de l'institution ou les non-réponses, et comment les associations aussi se mobilisent, notamment les associations étudiantes, notamment l'association Clash, qui est une association pionnière en la matière, hein, une association d'étudiants et d'étudiantes qui, justement, est une des premières à avoir sensibilisé sur la question du harcèlement dans l'enseignement supérieur.
Merci beaucoup, Angelina Etienne. Merci pour être venue nous faire un récapitulatif des temps forts des chemins de l'égalité. Je vous rappelle que les événements à venir, c'est le jeudi 21 mars à Eve pour des femmes respectables. Vous pouvez en savoir plus en allant sur radioalpa.com pour écouter l'émission de l'Amphi où on avait interviewé Alexandre Blondel, le chorégraphe de la pièce. Et lundi 25 mars à l'Amphi Mersenne pour le film Étudiante en terre aminée. Je renvoie également à l'émission sur laquelle nous étions avec les contraceptés, le collectif des contraceptés qui parle de contraception masculine, puisque c'est également une question que vous avez abordée, Angelina Etiamble. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Mutterline et Sonic Area le 21 mars au théâtre de Chaouet, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Skunk Anansie, Feeling the Itch.
I wanna
De retour dans l'amphi pour parler des résultats des Césars et des Oscars. Et je suis avec Marion Salle et Maxime. Salut.
Bonjour.
Salut.
Alors Maxime, tu es ambassadeur au cinéaste ainsi que le chroniqueur cinéma de l'amphi. Et Marion, tu es assistante de communication au cinéaste. Et cette fois, j'ai bien réussi à dire assistante et pas chargée de communication comme je le fais depuis le début.
Je suis qu'assistante, malheureusement.
Vous êtes des habitués de l'amphi et vous étiez venus le 30 janvier dernier pour faire vos pronostics sur ces deux cérémonies mythiques du monde du cinéma. Alors voyons si vos pronostics se sont vérifiés.
Ah, t'avais tout noté ?
Comment ça j'ai tout noté ?
T'avais noté nos pronostics ?
Non.
J'ai eu
non,
peur.
Je suis pas mazo à ce point.
Mais moi je m'en souviens pas. Mais moi je m'en souviens pas.
À 100%. C'est pas très grave, mais en tout cas on commence tout de suite. Par les Césars. Alors, les Césars, meilleur film, on se demande vraiment hein, qu'est-ce que c'était. C'était évidemment Anatomie d'une chute de Justine Triet.
Yeah, voilà, c'est mérité, ça.
Qui a également remporté la meilleure réalisation, la meilleure actrice, donc Sandra Hüller, hein, dans Anatomie d'une chute de Justine Triet. Je ne sais pas pourquoi je le répète. Et est-ce qu'il y en a un autre ? Non, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal.
Alors, il y a meilleur montage aussi et meilleur acteur dans un second rôle pour Swan Harlow.
Voilà. Donc, si je compte bien, ça fait 5 Césars quand même.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais, donc, c'est vraiment le film de cette année, quoi. Alors, est-ce que vous y attendez ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette overdose de récompenses ?
Peut-être meilleur acteur pour un second rôle, je crois qu'on avait parlé de quelqu'un d'autre. Alors, justement, de l'autre acteur qui joue le juge. Enfin, pas le juge,
Goldman.
L'avocat de la défense.
Mmh. Oui, non,
dans Anatomie d'une
chute. Oui, je jouais Judge Barge.
Si tu as vu Anatomie, c'est celui qui attaque en permanence Sandra Hüller.
D'accord.
Voilà. Antoine Reinhardt.
Exactement.
Et c'est justement, j'avoue que j'aurais adoré le voir parce qu'il est. C'est un acteur, en fait, que j'apprécie beaucoup parce que j'ai vu 4 de ses films et 2 de ses films il joue un connard.
Mais en même temps il les joue bien, donc
il joue super bien, c'est fort comment il joue, c'est terrible.
Après ça doit être intéressant en tant qu'acteur de jouer
Puis à chaque fois il a une voix douce, ce qui le rend encore plus méchant quand il joue un méchant.
Oui, complètement, c'est sûr.
Mais donc Anatomie d'une chute, ça surprend personne, quoi. Alors oui, le meilleur montage, c'est vrai que je l'avais pas souligné, mais le montage il est vraiment important dans ce film du coup.
Sans aucun doute.
Oui, parce qu'en fait, au niveau du montage, il y a aussi pas mal de choses sur le son et sur ce qu'on perçoit. Enfin, pas forcément. On ne voit pas tout. C'est du hors champ, mais on entend, notamment par exemple la scène de dispute qui est enregistrée. Mmh. On voit des extraits, mais on ne voit pas la violence. On l'entend par contre, et c'est pour ça aussi que ça joue beaucoup. Et il y a pas mal de choses aussi avec le gamin qui voit mal, en fait. Il y a un jeu aussi là-dessus. Il y a le tout peut être analysé, les séquences avec le chien, ça peut être analysé, quoi.
Ouais, et puis notamment je vous invite à regarder une vidéo, je crois que c'était Combini qui l'avait sorti, où c'est Justine Triet justement qui analyse la scène d'introduction du film.
Ah ouais, d'accord.
Où en gros tu comprends un peu la structure de la maison, en fait, de comment c'est construit, et que donc t'as le père qui est au dernier étage, le fils qui est au premier étage, le chien qui est dans les escaliers, et tu arrives avec Sandra Hüller qui est au rez-de-chaussée. Et en fait la scène d'introduction, c'est vraiment très bien monté, et enfin les plans ont été vraiment très réfléchis pour qu'on comprenne toute la structure de la maison, et en fait c'est tout ce qui va se passer juste avant que le père meure, quoi. Donc oui, je pense que le montage a été important quand même.
Mais pour écrire ça, il faut quand même avoir une capacité de visionner les choses.
Ah, mais c'est un travail titanesque, en fait.
Et c'est impressionnant.
C'est quand elle analyse la scène. En plus, moi, j'avais vu le film avant de voir cette vidéo où Justine Triet analyse cette première scène. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, quand tu vois un film, tout est tellement réfléchi. Enfin, c'est incroyable. Voilà, c'est sur Combini, je crois que sur YouTube, si vous tapez Combini, Justine Triet, Anatomie d'une chute, vous allez trouver ça.
Alors on va pas parler que de Anatomie d'une chute, mais je voudrais juste revenir un instant sur la performance de Sandra Hüller, le fait qu'elle a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Le César, pardon. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
C'est très mérité, et encore une fois il y a des gens qui n'ont pas aimé Anatomie d'une chute parce qu'ils trouvaient Sandra Hüller trop froide. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait toute la beauté du film, quoi. C'est que si elle était hyper chaleureuse, si on était trop en empathie avec elle, tout le monde se dirait qu'elle est absolument innocente et il n'y aurait pas de doute. Là, le fait qu'elle soit effectivement assez froide, ça fait qu'on a toujours le doute sur son innocence ou pas, quoi.
Bah, et puis surtout, il y a cette question aussi du fait que, on n'est pas hyper à l'aise souvent quand on est accusé dans un procès. Enfin, il y a déjà ça. Et puis, elle est froide parce que, on l'accuse d'un crime qu'elle considère ne pas avoir commis, en fait. Et du coup, elle a peur, en fait. Elle a peur et c'est pour ça qu'elle est aussi distante, qu'elle est aussi froide. Mais voilà, c'est. Déjà, faut le faire de jouer comme ça, en fait. Oui. Même si, je dois reconnaître que, je vois sur la liste des acteurs, des actrices et des autres comédiens. Virginie Efira, je suis pas hyper objectif sur elle, donc j'aurais voulu qu'elle gagne.
Alors, on a déjà pas mal, Virginie Efira. Ah, ouais.
On l'adore.
Mais Sandra Hüller, c'est très bien qu'elle ait reçu le prix. Ouais. C'est sûr.
Ouais. Et alors, du coup, pour le meilleur acteur, c'était Arié Worwalter dans Le procès Goldman.
C'est ça. Ça, c'est du coup, c'est là où je voulais en venir sur l'une des surprises des Césars. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais un peu peur que Raphaël Quenard gagne un second César parce que ça faisait. Ouais. Je trouvais que ça ferait trop dans la soirée, même s'il est très bien dans Yannick, je reproche pas là-dessus, mais ça en ferait trop. Ça ferait un double discours encore plus long.
Mais Raphaël Quenard qui n'a eu que la meilleure révélation masculine.
Ouais. Mais absolument mérité.
C'est un super prix.
Hein. Hyper mérité par contre. Mais voilà, pour ce qui est de meilleur acteur, je suis très content pour Arié Worwalter parce que c'était quand même une surprise. Mais le film est très bien et l'acteur le joue très très bien. Même si j'avoue, j'aurais soit Romain Duris, soit Melville Poupeau. Mais je suis quand même très content pour Arié Worwalter.
Marion, un avis sur.
En fait, c'est horrible. Enfin. N'étant pas actrice, c'est un peu horrible de cracher dans la soupe. Mais moi, il m'a pas tant transcendé, j'avoue. Je suis désolée. Mais oui, en fait, on est obligé de parler de Raphaël Quenard quand on dit meilleur acteur. Mais en même temps, il est tellement bon.
Alors oui, il a eu la meilleure révélation masculine pour le film Chien de la casse. C'est donc ça. Vraiment dans Chien de la casse qu'on a découvert Raphaël Quenard.
Eh ben en fait ouais, alors il joue dans trois films cette année dont Je verrai vos visages que je n'ai toujours pas vu, mais je vais le voir, je vous promets. Je verrai toujours vos visages.
Excellent.
Dont on va parler aussi.
Je verrai jamais vos visages.
Non, je verrai vos visages.
Je verrai toujours vos visages.
Je verrai toujours vos visages.
Oui, mais elle avait dit je verrai, j'ai rajouté tout.
Donc il est dedans, mais je crois qu'il a un rôle mineur.
Il a un rôle mineur.
Ouais, il apparaît sur une scène.
Mais dans Yannick, il apparaît beaucoup, mais en fait c'est vraiment dans Chien de la casse où je trouve qu'il est vraiment il est drôle, il est touchant, il est tout, quoi.
Mais il est violent aussi.
Il y a toujours un mélange des deux, dans Raphaël Quenard, de toute façon, j'ai l'impression.
Ça. Ouais.
Mais en fait, ce qui change par rapport à Yannick, c'est qu'en fait, dans Yannick, il a une espèce de désinvolture, en fait. Il a une façon de dire les choses dans ses dialogues, notamment, où c'est. Et puis en plus, comme Dupieux, il y a toujours beaucoup d'improvisation et du coup, il a beaucoup plus de liberté. On est sur quelque chose de théâtral, on est sur du théâtre, donc du théâtral. Et du coup, il est beaucoup plus libre dans ses mouvements. Chien de la casse, il avait vraiment des dialogues à apprendre. Enfin, ça se voyait parce que dans les Césars, il montrait un peu la liste des scénarios pour scénarios originaux.
C'est mot pour mot.
Alors peut-être pas mot pour mot, mais à mon avis, il y avait notamment quand il chante pour le chien, Baba, je sais pas trop quoi, là, pour le truc du chien.
Malabar, oui.
Ouais, voilà. Et voilà.
La Malabar.
C'était dans le scénario et du coup tu vois qu'il le cite, mais effectivement Raphaël Quenard dans Chien de la casse, il méritait le César du meilleur sport masculin à défaut du meilleur premier film pour Chien de la casse, mais ça c'est une autre histoire.
Justement j'allais rebondir là-dessus, le Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand qui a reçu le César du meilleur premier film, t'es pas d'accord du coup?
Alors,
Maxime,
pas d'accord parce qu'en fait quand on en avait parlé au moment où on avait fait les pronostics, je n'avais pas encore vu Chien de la casse et du coup donc je pouvais pas en dire plus, mais quelques jours avant la cérémonie des Césars, j'ai découvert le film avec mon père et j'ai aimé le film, c'est pas un souci, juste à côté il y avait Vermine quoi, du coup je dis pas que Vermine est parfait, mais à côté il y avait Vermine et je fais j'ai été pas plus surpris que ça et c'est un peu ce qui m'a déçu en fait, parce que j'ai pas été surpris et parce qu'à côté il y a, même si je sais que les deux films jouent pas du tout dans la même cour, loin de moi l'idée de les comparer, mais je préfère largement Vermine quoi, je suis pas objectif sur ça.
Alors moi j'ai pas vu Vermine et je suis arachnophobe, donc voilà, ça clôt le débat, mais en même temps c'est vrai que ça aurait été cool de récompenser un film de genre
il y a moyen que ce soit le fait que ce soit un film de genre et que du coup ça a bloqué un peu le jury.
Par contre moi j'ai adoré Chien de la casse, donc je trouve que c'est très mérité pour le coup.
Je pleure un peu sur Vermine, mais d'un côté on peut quand même être content parce que le Vermine il est quand même nommé dans deux catégories, donc meilleur premier film et meilleurs effets spéciaux, même s'il a rien eu des deux, et que par contre pour ce qui est des effets spéciaux j'étais pas du tout surpris, mais j'étais quand même content pour le règne animal, mais je suis quand même content parce que mine de rien Cette année, ils ont pas mal récompensé le cinéma de genre, bah, notamment Le règne animal. Il y avait aussi Mars Express. Il y avait Vincent doit mourir, même s'il a eu qu'une nomination, il était quand même présent. Donc, on a bien plus mis en avant le cinéma de genre que les années précédentes. Quoi. Et même, comme je le disais à Marion tout à l'heure, Vermine, film d'horreur français avec des araignées, deux nominations. Il n'a rien eu, mais deux nominations, c'est quand même quelque chose.
Et là,
ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur Florent Bernard, le scénariste, ils ont été appelés par Sam Raimi pour faire un Evil Dead.
Ah ouais,
ils vont faire un Evil Dead à la française.
Oh, incroyable, ça va être fou ça.
Donc avec actrice française, enfin scénario français et actrice française.
Excellent.
Et avec équipe technique, enfin notamment post-prod française, à la française, chez eux en France. Donc ça va être complètement dingue.
Marion, Evil Dead, toi t'es fan, hein, bien sûr. on va revenir quand même sur un film dont on a peu parlé pour l'instant, tu l'as cité tout à l'heure, et qui est quand même le deuxième film qui parle avec le plus de récompenses juste après Anatomie d'une chute, c'est effectivement Le règne animal. Le règne animal de, j'ai perdu le nom du réalisateur, c'est pas grave, tant pis, on passe à la suite. Donc il y a eu les meilleurs effets visuels, meilleures photos, meilleurs costumes. J'en oublie sûrement.
Meilleure musique.
Meilleurs effets visuels. Meilleurs effets spéciaux.
Donc bref, une belle performance. Quoi.
Bah,
qu'est-ce que vous avez
pareil,
à dire sur
c'est
ce
hyper
film,
mérité.
C'est mérité partout. La musique, elle est très très belle. La qualité du son, je pense notamment à la scène où il y a le personnage principal qui est comment il s'appelle déjà, enfin bref, le personnage principal qui Émile qui est dans la forêt et qui dit à sa copine si je crie tu m'entends, et toi si je crie tu m'entends ou pas, enfin et cette scène quand ils se crient l'un à l'autre à 300 km de leur lieu où ils s'entendent, c'est incroyable.
Alors pour finir encore deux choses, la meilleure actrice dans un second rôle, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Donc là il y a que Maxime qui va pouvoir en parler du coup.
Ouais, c'est ça. Marion. Alors je suis très content, mais en même temps je suis un peu biaisé parce que déjà je savais très bien que ce serait compliqué pour l'actrice secondaire du Chien de la Casse de le gagner, parce que même si j'ai aimé le film, je suis pas un grand fan de sa prestation, mais surtout ça se respecte, mais elle joue bien, mais c'est bizarre. Alors que pour le coup, sur le visage, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a trois actrices pour la même récompense, et c'est vraiment compliqué parce que les trois actrices elles jouent super bien l'une à l'autre.
Tout le monde est bon dans ce film.
C'est ça. Et Adèle Exarchopoulos, je pense tu l'as vu toi aussi, mais je pense notamment à cette scène où elle se met à hurler, elle gueule contre sa conseillère, et c'est une scène qui est terrible, et le film est excellent, et c'est vraiment mérité pour ça quoi.
D'ailleurs, je peux faire un peu de pub pour les cinéastes.
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait, on va le repasser, ce film, Je verrai toujours au visage, dans le cadre du festival du film judiciaire qui a lieu début avril. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Je suis en train de chercher la date de la séance précisément, donc continue à parler, je vais chercher ça.
Je voulais terminer sur ton sujet favori, Marion, le César du meilleur film d'animation.
Oh là là.
Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Laudenbar.
Tu sais que j'ai deux potes qui m'ont envoyé en même temps un SMS en disant « Ça y est, il a gagné, il avait du poulet !»
Donc, tu nous en as parlé
je l'ai vu trois
très
fois.
Souvent de ce film.
J'ai adoré. C'est tellement mérité. Après, on en a parlé hors micro, on a aussi beaucoup aimé Mars Express.
C'est ça. En fait, c'est pour ça aussi que je disais, moi je sais que j'étais très content pour Minon avait du poulet, mais je suis quand même très content pour Mars Express qui a quand même été présent, parce que c'est un film de genre, c'est de la science-fiction française, et c'est un super film. Mais voilà, et je pense notamment au discours des réalisateurs de Minon avait du poulet qui disaient, vous voyez, on peut faire des films d'animation, écrits par des adultes pour des enfants, et on peut faire un film vraiment, un film pour enfants, mais qui plaira aussi aux adultes. Parce que, je vais pas cracher dans la soupe d'un studio, mais il y a certains studios qui n'ont pas compris que faire un film pour enfants, il faut aussi que les adultes soient concernés. J'ai des noms en tête, enfin même.
Surtout qu'au cinéma, généralement, les enfants, ils y vont pas tout seuls.
C'est bien que pour les adultes. Ils sont accompagnés.
Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais quand je suis retournée voir Linda veut du poulet, il y avait donc des adultes et des enfants, là c'était en séance publique. Et je pense que les adultes y est plus que les enfants.
Mais d'ailleurs, ils vont faire un Evil Dead pour les moins de 10 ans, je sais pas si c'est quoi.
Quoi? C'est une blague.
Alors attends, du coup, je parlais de Je verrai toujours vos visages, donc on va le reprogrammer, noter dans vos petits agendas, le mardi 9 avril à 20h. Mais On reprogrammera aussi Anatomie d'une chute, qui est aussi un film de procès, donc c'est un peu du sens, le lundi 8 avril à 20h.
J'ai peut-être
toutes
enfin
les informations
aller voir.
Sur le site des cinéastes, www.lescinéastes.fr.
Ouais, bon, cette fois, faudra que j'aille le voir. Quand
même. Est-ce que du coup, comme c'est un film de procès, est-ce que vous allez faire repasser Procès Goldman?
Non, alors, il fait partie du festival, mais au final, on va pas... ce festival-là, il a lieu dans plusieurs salles de cinéma en Sarthe.
Okay.
Le Procès Goldman, nous, on va pas le repasser, mais on va passer un film en avant-première, vite, j'ai les infos.
Faut vraiment que je balance la pause, Marion, là.
Donc, voilà, bref, regardez sur le site des cinéas, c'est très bien.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Armand Méliès, soirée Honte Silencieuse, le 24 mars au Théâtre de Chaouet, en appelant 02 43 24 37 37. On revient dans quelques instants pour parler cette fois des Oscars. Et tout de suite, on écoute Tom après la chute.
J'ai dû me lever sans effort, des cristaux de sel au bord des lèvres. J'ai chassé la poussière de mes manches, rendu la vue à mes yeux étourdis. Et la mécanique a repris, un pied devant l'autre, une main aussi. Mais le cœur n'y est plus, je m'essouffle et deviens gardien du.
Avec Marion Salles et Maxime, et après avoir revu les résultats des Césars, on passe cette fois aux Oscars tout en finissant d'écouter Après la chute de Tom. Alors, du coup, les Oscars. Alors, on va passer rapidement sur le fait que Anatomie d'une chute de Justine Triet a remporté un Oscar, celui du meilleur scénario original. Donc, on a déjà pas mal parlé du film, donc on va passer dessus, même si c'est super qu'elle ait eu une récompense à l'international. Donc on va parler déjà de l'Oscar du meilleur film reçu par Oppenheimer de Christopher Nolan, mais qui a reçu également l'Oscar du meilleur acteur pour la performance de Cillian Murphy, ainsi que la meilleure photographie. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire d'Oppenheimer ?
Alors moi je dirais que bon, pour la photo je suis pas surpris parce que c'est Hoyt Van Hoytema qui s'en est chargé, donc je suis pas vraiment surpris. Maintenant... Oui, meilleur acteur. Bon, moi, je peux pas dire grand-chose là-dessus parce que j'ai pas vu tous les, j'avais pas vu tous les rôles dedans, à part peut-être évidemment Bradley Cooper pour Maestro, mais c'était évident entre les deux que Cillian Murphy l'aurait. Et puis même pour moi, enfin, j'ai trouvé que Cillian Murphy jouait très très bien dans le film. Donc voilà. Maintenant, meilleur film pour Oppenheimer. Je suis en train de le revoir actuellement là.
C'est un peu forcé, tu trouves.
Ah ouais, c'est ça. Enfin, je dis pas que j'aime pas le film, mais
C'est la meilleure musique originale aussi, j'oubliais, pardon.
Bon, j'avoue, niveau musique, c'est cool. Mais voilà, il y a eu mieux comme Tenet, par exemple, la musique de Tenet était vraiment cool. Mmh. Mais là, je sais pas, là, c'est autre chose. Et meilleur film, on a eu mieux, quoi. Enfin, même quand je vois les nommés. J'ai failli dire Barbie, mais quand même, faut pas exagérer.
Non,
il y a la zone d'intérêt, il y a Pauvre Créature à côté, il y a Killers of the Flower Moon.
Moi,
j'aimerais
que ce soit la zone d'intérêt. Ouais.
Alors,
ouais.
On va parler de justement. Je suis désolé, on va très vite, parce qu'il reste peu de temps. On va rebondir du coup sur Pauvre Créature.
Ah, enfin
yes. Préféré de l'année de Marion, je crois bien.
Ah ouais, j'adore.
Qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour la performance d'Emma Stone.
Ça, c'était sûr.
Mérité, enfin... surtout.
Ouais. Meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume et meilleur décor.
Bah ouais, bah voilà, je t'ai dit. si quelqu'un, si un autre film avait eu ces prix-là, j'aurais pété un câble.
À la cérémonie, elle aurait tout cassé.
Honneur, hein,
bien sûr, t'aurais pété un câble derrière moi. Quoi.
Non, mais c'est vrai que ce film a une identité visuelle qui est assez dingue.
Ouais, c'est bien qu'il ait été récompensé. Mm. La prise de risque, c'est très bien de le récompenser.
De toute façon, on connaît le style de Yorgos Lanthimos. Hein, quand on pense à. Mm. Moi, je peux m'empêcher de penser à son précédent. C'était quoi? C'était
La Favorite.
Ouais. La Favorite. Et y a, même si c'était très posé en termes de décor, en termes d'époque, il y a une idée, il y a une identité visuelle, il y a un truc de la part de Lanthimos.
Mm-hmm, carrément.
Alors un truc étonnant, c'est la meilleure chanson originale a été obtenue par le film Barbie, mais non pas pour la chanson à laquelle tout le monde pense.
Ouais, pourquoi ça c'est pas I'm Just Ken?
Eh ben ça ne l'est pas en tout cas.
Parce que moi c'est un vrai
titre. Je pensais que ça serait
I'm
Just Ken de Ryan Gosling,
degré,
mais non, c'est What Was I Made For de Billie Eilish que j'avoue je n'ai pas retenu plus que ça moi personnellement.
Les tristounes et tout.
Bah c'est Billie Eilish quoi.
Ah oui.
Donc j'aurais plutôt vu I'm Just Ken. Après je sais pas, peut-être que la chanson était trop second degré pour obtenir le prix. Je sais pas si c'est ça.
Ah ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un vrai tube que j'écoute régulièrement, sans penser à Barbie forcément. Mais
Maxime, tu écoutes tous les jours I'm Just Ken?
Pas du tout, j'en ai rien à foutre.
Oh, t'es dur.
Ouais, c'est bon. Je suis juste Ken. Ah bah tiens, c'est bizarre. Je suis un homme. Je vais pouvoir Ken. Yes.
Cool. Meilleur costume, ça aurait pu être aussi Barbie parce qu'en vrai, toutes les tenues de Barbie, par exemple, ça a été étudié, tu vois, dans le générique.
Aussi, ouais.
Non, par contre, franchement, aussi pareil niveau décor. C'est ouf ce qu'ils ont fait avec la couleur rose bonbon.
Il y a quand même du boulot, faut reconnaître.
Ouais, voilà. Non, c'est vrai.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait quand même du boulot sur ce film.
Ouais, exactement.
Alors, dans la catégorie meilleur film international, on a La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer.
Ah,
alors,
c'est super qu'il soit récompensé.
Ouais, bah, moi, j'en ai entendu du bon et du moins bon. En fait, il y a d'un côté les gens qui trouvent ça formidable et de l'autre, les gens qui se font chier pendant 2 heures. Donc, je ne sais pas quelle catégorie.
Ouais, j'ai entendu ça un peu en caisse aussi. Je comprends les gens qui sont un peu emmerdés, mais... Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils sont passés à côté du truc, malheureusement.
J'en parlais récemment avec une collègue cet après-midi et en fait, elle n'avait pas aimé le film justement pour ses qualités. Elle les reconnaît, mais elle n'aime pas le film pour ça justement. Le fait que c'est ambiance pesante, oppressante, angoissante et que la musique, enfin, la bande sonore est absolument affreuse. Et elle n'a pas aimé le film pour ça. Mais elle reconnaît toutes les qualités de ses qualités. Et j'ai vu, pour le coup aussi, pour un peu contrebalancer, j'ai vu La Salle des Profs.
Ouais.
Et je m'attendais, vu à quel point les films avaient beaucoup fait parler, je m'attendais à Moi Capitaine ou surtout je m'attendais à Society of the Snow, enfin le film qui était sur Netflix là.
Attends, La Salle des Profs était nommé.
Oui.
Ah bon?
Parce qu'il passe en ce moment en France en fait.
Bah,
ça m'étonne.
Ouais, je suis étonné aussi.
Bah, il est vachement bien.
Oui, par contre,
je l'ai vu là.
La Salle des Profs est très bien. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un.
On n'a pas le temps,
Ouais, bon, bah.
Je regarde sur Internet comme tout le monde.
Mais voilà, ouais, par contre, entièrement mérité pour La Zone d'intérêt.
Ouais,
très bien.
Alors on continue avec les meilleurs effets spéciaux obtenus évidemment par Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki.
Alors,
Maxime, si tu veux nous en dire quelques mots.
Alors, le film, il faut savoir qu'il a coûté 15 millions de dollars. C'est extrêmement peu, alors qu'à côté, on avait Les Gardiens 3 qui a coûté quand même plus de 200 millions. Mais même si Les Gardiens 3 étaient très bien faits pour ses effets spéciaux, bon, en même temps, c'est James Gunn, mais Godzilla Minus One, c'est incroyable. Et puis surtout, c'est le Japon qui reprend un peu le possession un peu de son bébé. Parce qu'après, les Américains l'ont repris et ils en ont fait un chien, en fait, parce qu'il est filmé à taille humaine, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors que Godzilla, il est vraiment filmé de taille vraiment à hauteur d'immeuble. Il est terrifiant. Il y a des plans de plongée et des plans de contre-plongée qui sont absolument écrasantes. C'est terrifiant. Il y a vraiment la musique, c'est pareil, elle est écrasante, elle est elle est effrayante parce qu'on voit, on voit le Titan, on voit ce que c'est. Et quand il explose tout, quand il fait tout exploser au nucléaire avec son éclair, quand il détruit tout, la musique même, elle est magnifique. Ouais. C'est vraiment un retour aux sources pour le personnage.
Et alors, on termine sur la catégorie meilleur film d'animation. Et je suis très content pour ma part, c'est Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki qui l'emporte.
Ouais, ça m'étonne pas.
C'est pareil. En fait, moi, c'est ce que j'avais dit lors des pronostics, ça je m'en souviens. C'est qu'en fait, ça allait se bastonner entre Le Garçon et le Héron et Spider-Man Across Spider-Verse.
Ah oui.
Et, mais moi, je savais qu'il allait. Enfin, voilà, ça fait 10 ans qu'on attend Papy Miyazaki. C'est sûr qu'il allait gagner. Ah, 80 ans hein.
Ouais, mais moi, j'étais un peu hacké parce que le film a quand même été pas mal critiqué. Il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé pas terrible, quoi, qui n'ont pas compris le film. Et, alors que moi, je l'ai trouvé franchement génial. Pour moi, c'est mon deuxième préféré après Chihiro. Donc voilà, très content. Et puis Spider-Man, je m'en fous. Donc,
Non, franchement. Moi, j'ai quand même envie de le voir Spider-Man. Je ne l'ai toujours pas vu, malheureusement. Mais...
Je te conseille d'abord de voir Into Spider-Verse pour comprendre le truc.
Ah oui, ça, je l'avais vu celui-là.
Okay,
le nouveau que je n'ai pas.
Mais voilà, en tout cas, moi, je savais très bien que Le Garçon et le Héron allait gagner. J'aime beaucoup le film, mais c'est vrai que moi, il y a des éléments dans le film que je n'avais pas spécialement compris, ou alors je trouvais qu'il y avait des séquences que des séquences que je trouvais un petit peu qui étaient moins utiles ou qu'ils auraient pu traiter autrement. C'est vraiment ça, mais sinon le film est bien, il est très beau visuellement, c'est magnifique.
Marion, tu l'avais bien aimé toi le film?
Oui. Ouais, vraiment.
Et ben, en tout cas, merci beaucoup Marion Salle et Maxime pour nous avoir donné votre regard sur les Césars et les Oscars 2024. Merci à vous.
Merci,
je t'en prie.
Et merci à vous d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve mercredi 20 mars pour parler de l'intervention au Carrefour de la Pensée d'Arthur Gosset, qui a réalisé un film sur les jeunes diplômés qui changent de cap pour s'engager sur le plan écologique et social. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.